Maxime Gorky, Les Vagabonds. Mon compagnon. Chapitre 1. C'est dans le port d'Odessa que je fis sa rencontre. 3 jours durant, il sollicita mon attention par sa silhouette trapue et forte, par son visage caucasien qu'encadrait une barbe élégante. Il était devenu pour moi une obsession. Pendant des heures entières, je le voyais, sur les quais de granit, arrêté, suçant la poignée de sa canne et contemplant mélancoliquement, de ses yeux fendus en amande, l'eau souillée du port. 10 fois dans la journée, il me croisait, déambulait de l'allure insouciante d'un promeneur. Qui était-ce ? J'entrepris de l'espionner. Lui, comme s'il se fût fait un jeu de me railler, multipliait ses apparitions. Bientôt, je le reconnus de loin, à son complet à la mode, à carreaux clairs, à son chapeau mou d'artiste, à sa démarche nonchalante, et même à l'expression lasse et vague de son regard. Il était tout à fait dépaysé, semblait-il, dans ce port, parmi le sifflement des navires et des locomotives, le grincement des chaînes, les appels des ouvriers, parmi tout ce mouvement furieusement fiévreux qui vous étreint de tous côtés et qui épuise l'esprit et les nerfs. Dans ce port, tous les hommes étaient les esclaves des formidables machines, nécessitant d'eux une attention et un labeur incessants. Tous grouillaient autour des navires et des wagons, les emplissant ou les vidant. Tous, harassés, préoccupés, couraient, vociféraient au milieu de la poussière. Tous étaient en sueur. Lui, au milieu du travail fébrile, errait tranquillement, promenant son ennui mortel avec une expression étrange de totale indifférence. Enfin, au bout de 4 jours, à l'heure du repas, je tombai sur lui, résolu à savoir coûte que coûte qui il était. Je m'installai tout près de lui, avec une pastèque et du pain, et je commençai mon repas tout en regardant mon bonhomme, cherchant le procédé le plus délicat de lier conversation avec lui. Il se tenait debout, adossé à des caisses de thé. Il promenait autour de lui des regards discrets et semblait jouer de la flûte sur sa canne. Ce n'était pas chose facile pour le vagabond que j'étais, tout souillé de poussière de charbon et portant sur le dos un crochet de débardeur, d'amorcer un entretien avec ce gommeux. Mais, à ma profonde stupeur, je constatai qu'il tenait les yeux obstinément fixés sur moi et que dans son regard brillait une avidité mauvaise et bestiale. J'en conclus que celui que j'étudiais était affamé. J'inspectai rapidement du regard tous les environs et lui demandai doucement « Voulez-vous manger ?» Il eut un tressaillement. Il grimaça avec un air avide, découvrant ainsi des dents longues et serrées qui me parurent être au moins 100. Puis, à son tour, promena un regard méfiant autour de lui. Personne ne nous prêtait la moindre attention. Aussitôt, je lui refilai la moitié de ma pastèque et une tranche de pain de froment. Il s'empara du tout et s'éclipsa. Il s'assit sur des caisses de marchandises. De temps en temps, il relevait la tête. Il avait rejeté son chapeau en arrière et montrait un front brun et mouillé de sueur. Sa face s'illuminait d'un large sourire et il clignait des yeux dans ma direction, sans cesser pour cela un instant de mastiquer. D'un geste, je lui fis comprendre de m'attendre et je m'en fus acheter de la viande. Je la rapportai et la lui donnai. Je me plaçai à côté des caisses, de telle sorte que je cachai complètement mon infortuné gommeux à tous les regards indiscrets. Jusqu'à ce moment-là, il avait dévoré avec l'air inquiet d'un fauve qui redoute qu'on lui enlève son morceau. Dès lors, il mangea plus tranquillement, mais néanmoins si vite et si gloutonnement que la vue de cet affamé me devint chose odieuse. Je me détournai de lui. « Merci, merci bien !» Il me tapa sur l'épaule, puis me prit la main, et, l'étreignant, la secoua douloureusement. Il ne fallut pas 5 minutes pour qu'il commençât déjà à me raconter son histoire. Le prince géorgien Charko Ptadze était l'unique fils d'un riche propriétaire de Koutaïs. Il était employé à une gare du Transcaucasien et habitait avec un compagnon. Celui-ci s'enfuit brusquement en emportant l'argent et les valeurs du prince Charko, qui se mit à sa recherche. Le hasard lui ayant fait savoir que son compagnon avait pris un billet pour Batoum, le prince Charko y accourut. Mais il advint que de Batoum, le compagnon était déjà parti pour Odessa. Le prince Charko prit alors le passeport d'un autre camarade, coiffeur de son état, du nom de Vanos Vanidze, ayant le même âge que lui, mais dont le signalement différait. Puis il partit pour Odessa. Là, il fit à la police la déclaration du vol dont il avait été victime. On lui promit de retrouver le coupable. Depuis 2 semaines, il attendait, ne possédait plus un sou vaillant et n'avait pas mangé depuis 4 jours. J'écoutais son récit, qui me sembla sincère et qu'il coupait de jurons. J'observais ce jeune homme, j'eus confiance en lui, et il me fit pitié. C'était presque encore un enfant. Il avait 19 ans, et sa naïveté le faisait paraître encore plus jeune. Il revenait continuellement en causant sur son ancienne affection pour le compagnon infidèle qui lui avait volé des biens si précieux. Son indignation était profonde. Le père de Charko, un homme terrible, ne manquerait pas d'égorger son fils s'il ne rentrait pas en possession des objets perdus. Je me dis que ce jeune homme allait être perdu dans la ville si personne ne lui prêtait assistance. Je n'ignorais pas quelle contingence minime enrichisse la horde des va-nu-pieds, et je prévoyais que le prince Charko avait toutes les chances du monde d'être enrôlé dans leur légion estimable, mais non estimée. L'idée me vint de le secourir. Je ne pouvais, sur mon salaire, lui procurer un billet jusqu'à Batoum. Je courus dans plusieurs bureaux pour solliciter en sa faveur un billet gratuit. Je mis toute mon énergie à démontrer l'opportunité d'un secours. On me refusa avec non moins d'énergie. J'offris alors à Charko de l'accompagner jusque chez le chef de la police pour qu'il demandât un billet. Mais il parut troublé et déclara qu'il n'irait pas. Pour quelle raison ? Il avait négligé de payer le propriétaire de l'hôtel meublé où il logeait, et à une réclamation d'argent, il avait cogné sur quelqu'un, puis s'était esquivé. Il estimait assez justement que la police ne le féliciterait pas de s'être ainsi dérobé au paiement de sa dette, et d'avoir ensuite distribué des horions, d'autant plus qu'il ne se rappelait pas au juste s'il avait frappé une seule fois, ou 2, ou 3, ou 4. La situation devenait plus compliquée. Je décidai de travailler, jusqu'à ce que j'aie amassé la somme nécessaire pour le voyage à Batoum. Hélas, très évidemment, cela ne pouvait être fait de sitôt, peut-être même jamais, car pour se dédommager de son jeûne prolongé, ce Charko dévorait comme 3 hommes, voire davantage. À ce moment, l'affluence des crèves-la-faim dans les ports avait amené une baisse dans le salaire de la journée, et sur les 80 kopecks de ma paye, nous en mangions à nous 2, 60. D'autre part, avant d'avoir fait la connaissance du prince, j'avais résolu de descendre en Crimée, et je tenais à ne pas séjourner éternellement à Odessa. Je fis donc au prince Charko la proposition de s'en venir à pied avec moi, dans les conditions suivantes. Si je ne trouvais pas quelqu'un pour l'accompagner jusqu'à Tiflis, je l'y conduirais moi-même. Si je lui trouvais un guide, nous nous séparerions. Le prince considéra ses bottines fines, son chapeau, son pantalon, passa la main sur sa jaquette, resta songeur, poussa plusieurs soupirs et finalement accepta. Ce fut ainsi que nous fîmes à pied le trajet d'Odessa à Tiflis. Chapitre 2. À notre arrivée à Kherson, je m'étais fait une opinion décisive sur mon compagnon de route. C'était un individu naïf et inculte, sans aucun développement intellectuel, heureux quand il était repu, déprimé lorsqu'il avait faim. Quelque chose comme un animal vigoureux et sans méchanceté. Durant le parcours, ils me parlaient du Caucase, du genre de vie des propriétaires géorgiens, de leurs distractions et de leurs relations avec les paysans. Ces récits présentaient de l'intérêt et n'étaient pas dépourvus de quelque grandeur. Mais la personnalité de mon compagnon s'y manifestait sous un jour peu avantageux pour lui. Voici un exemple de ces histoires. Un prince riche offrait une fête à des amis. On but du vin, on se gorgea jusqu'à satiété des plats favoris des Géorgiens, puis le prince emmena ses hôtes aux écuries. Des chevaux furent sellés, le prince enfourcha le meilleur et se mit à galoper dans la plaine. Son cheval était puissant. Les invités s'extasiaient sur la beauté de l'animal et sur sa vitesse. Le prince repart à nouveau. Soudain, apparaît dans la vallée un paysan monté sur un cheval blanc qui dépasse le prince. Le paysan se met à rire orgueilleusement. Humilié devant ses invités, le prince eut un terrible froncement de sourcils. D'un geste, il fit signe au paysan de s'approcher, et lorsque celui-ci fut devant lui, il lui fit sauter la tête d'un coup de sabre. Puis, braquant son pistolet dans l'oreille du cheval, il le tua net. Après quoi, il s'en fut raconter son haut fait aux autorités. Il fut condamné aux travaux forcés. Charcot s'apitoie sur le prince. « Je m'efforce de lui démontrer que cet homme ne mérite aucune pitié. » Mais il me répond d'un ton sentencieux. « Il y a peu de princes, et il y a beaucoup de paysans. On ne devrait pas condamner un prince pour un paysan. »«
Qu'est-ce que c'est qu'un paysan ?»«
Ceci. » Et Charcot me fait voir une motte de terre.
« Tandis qu'un prince est en quelque sorte une étoile. »
Nous disputons, il s'emporte. Dans sa colère, il découvre les dents ainsi qu'un loup. Sa figure prend une expression aiguë.
« Tais-toi, Maxime » crie-t-il. « Tu ne sais pas comment l'on vit au Caucase. »
Sa naïveté demeure inaccessible à mes arguments. Ce qui me semble évident lui paraît ridicule. Son cerveau demeurait réfractaire à ma logique. Et lorsque, après bien des efforts, je l'avais mis au pied du mur en lui prouvant d'une manière évidente la supériorité et la légitimité de mes idées, il ne se laissait pas démonter pour cela et déclarait « Va habiter au Caucase, tu comprendras que je dis juste. Tout le monde agit de la sorte, c'est donc bien ainsi. Pourquoi me fierais-je à toi qui viens seul me dire « Ceci est faux », alors que des milliers de gens affirment « Ceci est juste ». Je me taisais alors, me rendant compte que ce qu'il fallait opposer à cet homme, qui croyait que la vie, telle qu'elle se présente actuellement, était basée sur un principe de justice, c'était non des paroles, mais des faits. Je me taisais, et lui s'enorgueillissait de ce triomphe, car sa confiance en sa connaissance absolue de la vie, et mon silence, lui permettaient d'exalter encore plus dans ses récits la vie des propriétaires caucasiens dans ce qu'elle avait de grandeur tragique, de violence et d'originalité. Ces histoires m'intéressaient et excitaient ma curiosité, tout en m'inspirant un sentiment de révolte, motivé par leur barbarie, leur respect servile de l'argent et de la force, par l'absence de ce qui constitue la morale obligatoire de chaque homme. Certains jours, je demandais à Charcot s'il connaissait la loi du Christ.
« Parbleu !»
me répondit-il avec un haussement d'épaule. Mais quand je l'eus interrogé à fond, je m'aperçus que toute sa science se résumait en ceci. Il y avait eu un nommé Jésus, lequel s'était révolté contre la loi juive, en raison de quoi les Juifs l'avaient mis en croix. Mais comme il était Dieu, il ne mourut pas sur la croix. Il s'enleva au ciel et donna d'autres lois aux hommes.
Lesquelles ? Demandai-je.
Charcot eut un regard étonné et ironique.
Tu es chrétien ? Dit-il.
Bien, moi aussi. Sur terre, presque tous les hommes sont chrétiens. Donc, que me demandes-tu ? Tu vois bien comment tout le monde vit. Eh bien, voilà la loi du Christ. Je m'emportai et j'entrepris de lui raconter la vie de Jésus. Il y prêta au début une certaine attention, puis progressivement se désintéressa et enfin se mit à bâiller. Comprenant que son cœur n'y était plus, je fis appel de nouveau à son cerveau. Je lui expliquai les avantages que peuvent procurer la charité, la science, la justice, parlant des avantages et uniquement des avantages. Celui qui est puissant fait la loi lui-même, il n'est pas nécessaire de la lui enseigner. Même s'il est aveugle, il trouvera sa route, me répondit le prince Charcot avec indolence. Il avait ce mérite de demeurer fidèle à ses principes. Cela m'incitait au respect. Mais il était brutal, cruel, et de temps à autre, je sentais en moi un éclair de haine s'allumer contre lui. Je ne désespérais pas, cependant, de trouver entre nous un point commun, un terrain qui nous permettrait de nous rencontrer et de nous comprendre. J'abordais des conversations plus simples, je tentais de me rapprocher de lui. Il constata mes efforts, en conclut que je reconnaissais sa supériorité, et prit avec moi un ton de plus en plus arrogant. Il m'était douloureux de voir mes arguments tomber en poussière, contre la muraille de granit que constituait son appréciation de la vie. Nous avions franchi le Pérécope. Les montagnes de la Crimée étaient proches. Depuis 2 jours, nous les apercevions à l'horizon, toutes bleues et semblables à des bandes de nuages légers. Je les admirais de loin en songeant à la côte de Crimée. Cependant, le prince chantait des refrains géorgiens et demeurait morose. Tout notre argent était dépensé et nulle part nous ne voyions la possibilité d'en gagner d'autres. Nous marchions en hâte vers Théodosie, où l'on avait entrepris des travaux pour l'établissement d'un port. Le prince m'affirmait qu'il travaillerait lui aussi, et que nous emploierions l'argent gagné à payer le voyage par mer jusqu'à Batoum. Là, il avait de nombreux amis, et il lui serait aisé de me procurer une bonne place de portier ou de gardien. D'un air protecteur, il me tapait sur l'épaule et déclarait en faisant claquer sa langue « Je t'organiserai une vie confortable, tché, tu boiras du vin tant que tu voudras, tu mangeras du mouton tant que tu pourras, tu épouseras une géorgienne, une grosse géorgienne, tché, elle te cuisinera de bons plats, tu lui feras beaucoup d'enfants, tché. » Tout d'abord, ce tché m'avait surpris. Ensuite, il provoqua chez moi de l'agacement. Enfin, me mit dans une colère morne. En Russie, on se sert de cette onomatopée pour rappeler les pourceaux. Au Caucase, il traduit l'admiration, le regret, la joie, la souffrance. L'élégant complet de Charcot était fort élimé. Ses souliers bâillaient de tous côtés. Nous avions vendu à Kherson la canne et le chapeau. Au lieu et place de ce dernier, Charcot arborait une vieille casquette d'employé de chemin de fer. La première fois qu'il l'a mis, l'ayant bien campé sur l'oreille, il me demanda « Comment Flamme va-t-il? Est-ce joli ?» Chapitre 3. Enfin, nous voici en Crimée. Nous avions passé par Saint-Féropol et nous nous dirigions vers Yalta. La beauté extrême de ce coin de terre, bordé de tous côtés par les flots, me plongeait dans une extase muette. Le prince soupirait, geignait, et, regardant autour de lui avec un air navré, tâchait de combler le vide de son estomac avec des fruits inconnus. Ses tentatives n'aboutissaient pas toujours très favorablement, et il me disait d'assez mauvaise humeur « Si cela me met le corps à l'envers, dis-moi comment je pourrais aller plus loin, hein ?» Aucun travail ne s'offrant à nous, et, faute d'un sou vaillant, ne pouvant acheter du pain, nous nous nourrissions exclusivement de fruits et d'espérance. Déjà le prince Charcot en venait à me reprocher ma paresse et mon défaut d'initiative. Il commençait à être insupportable. Mais par-dessus tout, il m'irritait par les anecdotes qu'il me racontait au sujet de son appétit formidable. Par exemple, ayant mangé à midi un petit agneau, arrosé de 3 bouteilles de vin, il était, disait-il, capable d'absorber, à 2 heures et sans difficulté, pour son dîner, 3 assiettes de soupe, une pleine marmite de mouton au riz, une part énorme de viande, sans compter un grand nombre de plats caucasiens et de boire, en outre, à satiété. Durant des journées entières, il m'entretenait de ses préférences et de ses connaissances gastronomiques. Il discourait, faisant claquer sa langue, les yeux brillants, grinçant de ses dents longues, aspirant et ravalant bruyamment sa salive d'affamé qui mouillait continuellement ses lèvres d'orateur. À ces moments-là, je ressentais pour lui un dégoût que j'avais peine à dissimuler. Un jour, tout près de Yalta, je fus embauché pour tailler un jardin fruitier. Je reçus d'avance le salaire de mon travail, et j'employai tout cet argent à l'achat de viande et de pain. Je rapportai mes provisions. À cet instant, le jardinier m'ayant appelé, je dus le rejoindre, laissant les victuailles à la garde de Charcot, lequel avait refusé de travailler en prétextant un mal de tête. Lorsque je revins, une heure plus tard, je pus constater que Charcot ne m'avait en rien menti en me parlant de son appétit. Il ne restait plus une miette de mes provisions. Ce n'était pas là un fait de bon camarade. Mais je ne dis rien, et j'eus tort, ainsi que la suite des événements me permit d'en avoir la preuve. Charcot, ayant remarqué mon silence, l'exploita à son profit. À dater de ce jour, les choses prirent une tournure tout à fait saugrenue. Moi, je travaillais. Lui, imaginant sans cesse quelque prétexte pour se refuser à tout effort, mangeait, dormait et se payait ma tête. Je ne suis pas un disciple de Tolstoï. Je trouvais stupide et odieux de voir ce solide gaillard me regarder d'un air cupide lorsque, épuisé par le travail, je venais le retrouver dans un coin à l'ombre. Mais ce qui m'apparaissait plus stupide et plus odieux encore, c'est que je m'apercevais qu'il se moquait de moi parce que je travaillais. Il se moquait de moi parce que lui-même, étant habile à mendier, estimait que j'étais une bûche sans énergie. Tout d'abord, lorsqu'il mendiait, il y apportait vis-à-vis de moi une certaine pudeur, mais par la suite, dès que nous approchions d'un village tartare, il procédait en ma présence à ses préparatifs. Il s'appuyait sur un bâton et traînait la jambe, affectant d'être blessé, car il comprenait bien que les Tartares avares n'accorderaient aucune aumône à un gars solide. De là venaient des disputes, et je m'efforçais de lui faire comprendre l'ignominie de sa conduite. Il riait. « Je ne sais pas travailler !» me répondait-il simplement. On lui faisait la charité assez mesquinement. Je commençais alors à être malade. Chaque jour, le trajet me semblait plus pénible et mes relations avec Charcot plus insupportables. Il en était arrivé jusqu'à exiger violemment que je l'entretienne. « Est-ce toi qui me guides ? En ce cas, guide-moi. Il m'est impossible à moi de faire à pied un si long parcours. Je n'en ai pas l'habitude. Cela peut me tuer. » « Te plais-tu à me faire souffrir? Souhaites-tu ma mort? Qu'arrivera-t-il si je meurs? Ma mère pleurera, mon père pleurera, mes amis pleureront, cela en fera des larmes. » J'écoutais ces péroraisons sans impatience. Une idée bizarre pénétrait peu à peu dans mon cerveau et me donnait la volonté de supporter tout cela. Quelquefois, tandis qu'il dormait, je m'asseyais près de lui. Et, considérant l'immobilité paisible de son visage, je me répétais à moi-même, comme saisi de l'intuition de quelque chose, « Mon compagnon, mon compagnon !» Dans mon cerveau prenait naissance par instant cette idée confuse que Charcot usait simplement d'un droit en exigeant avec cette autorité absolue mon assistance et mes soins. Ses prétentions révélaient en lui une force de caractère. Il me faisait son esclave et je lui cédais. Je l'étudiais, notant tous les frémissements de son visage et tâchant de m'imaginer où il bornerait son emprise sur une personnalité étrangère. Quant à lui, il se trouvait fort à l'aise. Il chantait, il dormait et me raillait tout à sa guise. Parfois, nous nous séparions pour un jour ou deux et nous allions dans des directions différentes. Je le munissais de pain et d'argent, lorsque j'en possédais, et je lui indiquais où il faudrait m'attendre. Quand nous nous retrouvions, la méfiance mécontente qu'il avait manifestée à mon départ
se changeait en une joie triomphante, et il me disait dans un éclat de rire « Je croyais que tu étais parti tout seul, que tu m'avais planté là !» Je lui donnais de quoi manger, je lui disais quel beau paysage j'avais vu. Un jour, à propos de Bakhtchisaraï, je lui déclarai quelques vers de Pouchkine. Ils ne l'impressionnèrent aucunement. « Ah, des vers, des chansons, soit, mais pas des vers. J'ai connu un homme, un géorgien, Mato Legeava, qui savait chanter des chansons. Et quelles chansons! Quand il chantait, ah là là, et c'est qu'il chantait très fort. On eût dit qu'on lui retournait un poignard dans le gosier. Il a coupé la gorge à un aubergiste, et on l'a envoyé en Sibérie. Chaque fois que je revenais, je dégringolais plus bas dans son opinion, et il ne prenait pas la peine de me le cacher. Nos affaires n'étaient guère prospères. Je parvenais tout juste à gagner un rouble ou un rouble et demi par semaine, ce qui naturellement était très insuffisant pour nous deux. Les aumônes que recueillait Charcot ne nous faisaient aucun profit. Il avait comme estomac un gouffre en miniature qui engloutissait tout, le raisin, les pastèques, le poisson salé, le pain, les fruits secs, et ce gouffre semblait grandir avec le temps, et il devenait de plus en plus difficile de satisfaire ses exigences. Charcot insistait pour que nous quittions au plus vite la Crimée, alléguant, non sans raison, que l'automne était déjà arrivé et que la route était encore longue. J'en convins. D'ailleurs, je connaissais déjà cette région de la Crimée, et nous nous mîmes en chemin pour Théodossie, poussés par l'espoir d'y réaliser enfin l'argent que nous n'avions pas encore. Il fallut recommencer à vivre de fruits et d'espérance en l'avenir. Triste chose que l'avenir! On l'attend si longtemps que presque tout son charme a disparu quand il devient le présent. Environ 20 verstes au-delà d'Aloutchta, nous nous arrêtâmes pour passer la nuit. Je décidai Charcot à suivre la grève. Cela nous allongeait, mais j'avais envie de respirer l'air de la mer. Nous allumâmes un feu près duquel nous nous étendîmes. La soirée était splendide. La mer, d'un vert glauque, déferlait contre les falaises au-dessous de nous. Au-dessus de nos têtes régnait le silence triomphal du ciel bleu. Autour de nous, les buissons et les arbres parfumés murmuraient doucement. La lune se levait. Les feuilles aux contours sinueux des chinards projetaient des ombres qui se détachaient sur la pierre. Un oiseau lançait à plein gosier une chanson vibrante. Ses trilles argentins se perdaient dans l'air au bruit berceur et léger des vagues. Quand il se taisait, on percevait le cri aigu d'un insecte. Le feu flambait avec une lueur joyeuse, et sa flamme semblait un bouquet gigantesque de fleurs jaunes et rouges. Lui-même produisait des ombres qui dansaient autour de nous légèrement et paraissaient opposer leur mobilité aux ombres lentes que projetait la lune. Des bruits étranges vibraient parfois dans la nuit. La mer étendait son immensité déserte jusqu'à l'horizon. Le ciel était sans nuages et j'éprouvais la sensation de me trouver aux confins de la terre, en contemplation devant le magique problème de l'infini. La beauté sereine de la nuit me versait son ivresse. Je m'anéantissais dans une harmonie parfaite de couleurs, de sons et de parfums. Mon âme était pleine de la prescience confuse d'une présence divine. Ma joie de vivre était si intense qu'il me semblait que mon cœur cessait de battre. Soudain, Charcot éclata de rire. « Quelle tête stupide tu fais! On dirait un mouton! » Je sursautai comme si la foudre avait éclaté au-dessus de ma tête. Mais cela était pire. Oui, peut-être était-ce drôle, mais combien humiliant! Charcot riait aux larmes. Moi-même, il me semblait que j'allais pleurer, pour une raison tout autre. J'éprouvais la sensation d'avoir une pierre dans la gorge. J'étais incapable de parler, et je le regardais avec des yeux fous, ce qui mit le comble à son hilarité. Il se roulait sur le sol en se tenant le ventre. Pour moi, je ne pouvais me remettre de l'outrage qu'il venait de me faire.
Cet outrage était terrible, et les quelques lecteurs, qui, je l'espère, le comprendront pour avoir eux-mêmes éprouvé une émotion semblable, sentiront à nouveau le poids de cette souffrance s'appesantir sur leur cerveau.
« Tais-toi !»
hurlai-je avec fureur. Il eut peur, sursauta, mais ne parvint pas cependant à s'arrêter. Il était possédé de la folie du rire. Il enflait les joues, roulait les yeux et recommençait à s'esclaffer. Alors je me levai et m'éloignai de lui. Je marchais longtemps sans penser, sans réfléchir, empoisonné par le venin de la solitude et de l'humiliation. J'avais étreint la nature entière, je lui avais fait silencieusement l'aveu de mon amour, de cet amour qu'éprouve tout homme lorsqu'il est un peu poète, et voici que la nature, en la personne de Charcot, avait éclaté de rire devant mon enthousiasme. J'eusse continué longtemps encore mon acte d'accusation contre la nature, contre Charcot et contre tout l'ordre des choses, si je n'avais entendu derrière moi des pas précipités. « Ne sois pas fâché, » me dit Charcot, l'air contrit, en m'appuyant légèrement la main sur l'épaule. « Tu étais en prière ? Je ne pouvais pas savoir. Je ne prie jamais, moi. » Il avait le ton confus d'un enfant fautif, et malgré mon exaltation, il m'était impossible de ne pas voir l'inquiétude et le trouble qui angoissaient sa figure honteuse. « Je te promets sérieusement de ne plus jamais te déranger. » Et il fit un geste négatif de la tête et reprit. « Je vois que tu es bon, que tu travailles et que tu ne me demandes pas de travailler. Alors, je me demande pourquoi. « Assurément, pensais-je, il faut qu'il soit bête comme un mouton. » C'était tout ce qu'il trouvait à me dire pour me consoler et me présenter ses excuses. Bien entendu, après de telles consolations et de telles excuses, je ne pouvais que lui pardonner, non seulement les fautes passées, mais encore les fautes à venir. Une demi-heure plus tard, il dormait profondément. Assis à ses côtés, je restais à le regarder. Durant son sommeil, l'homme le plus fort paraît faible et sans défense, et Charcot me faisait pitié. Ses lèvres épaisses entr'ouvertes, ses sourcils relevés, lui donnaient l'aspect d'un enfant timide et étonné. Sa respiration était paisible, mais parfois il remuait et parlait, disant, en dialecte géorgien, des phrases entières, des supplications hâtives. Tout autour de nous, c'était le calme angoissé qui semble toujours couvrir quelque chose, la tranquillité absolue, le silence implacable et complet, qui, s'il se prolongeait, amènerait chez l'homme la folie. Le murmure des vagues ne parvenait pas jusqu'à nous. Nous étions dans une sorte de ravin que bordaient des haies épineuses, semblables à la gueule d'un monstre pétrifié. Je contemplais Charcot et je pensais « Il est mon compagnon. Je puis le laisser là, mais je ne puis me délivrer de lui, parce que son nom est Légion. C'est le compagnon de toute mon existence. Il me suivra jusqu'au tombeau. » Chapitre 4. Théodosie nous valut une déception. À notre arrivée, nous y trouvâmes près de 400 individus désirant, comme nous, du travail, et qui, par force, se contentaient de regarder en spectateur la construction des docks. Parmi les travailleurs, il y avait des Turcs, des Grecs, des Caucasiens, des originaires de Smolensk, de Poltava, des vagabonds. La ville entière et ses environs étaient infestés de hordes moroses, de gens épuisés, de crève-la-faim. Tous les va-nu-pieds d'Azov et de Crimée y grouillaient comme des loups. On nous prit tout d'abord également pour des crève-la-faim. On s'efforça de tirer de nous tout le profit possible. Dans la cohue, on arracha des épaules de Charcot le paletot que je lui avais acheté, et on coupa la courroie de mon sac. Toutefois, après quelques discussions, nous rentrâmes en possession de notre bien. La confrérie des va-nu-pieds s'aperçut, entre eux et nous, d'une communauté d'esprit, et les vagabonds sont gens d'honneur, encore que très mauvais sujet. Quand nous eûmes acquis la conviction qu'il n'y avait là rien à faire
et qu'on prétendait se passer de nous pour construire la digue, nous nous sentîmes offensés et nous partîmes pour Kertch. Mon compagnon fut fidèle à sa parole. Il ne se moquait plus de moi, mais il souffrait beaucoup de la faim. Il était ténébreux comme la gorge du Darial. Sitôt qu'il voyait quelqu'un en train de manger, il se mettait à grincer des dents comme un loup et m'effrayait en m'énumérant toute la boustifaille qu'il eût voulu absorber. Depuis quelques jours, il commençait à penser aux femmes. Ce furent d'abord, de temps en temps, des soupirs de regret qui devinrent de plus en plus fréquents, avec des sourires ardents d'oriental. Enfin, il en arriva à ne pouvoir rencontrer une femme, quel que fût son âge ou son aspect, sans me faire des réflexions cyniques et pleines d'une philosophie pratique, relativement à quelque partie de son corps. Il avait une façon si cavalière de parler aux femmes, il manifestait une connaissance si approfondie de la matière, et il se plaçait à un point de vue si spécial, que je ne pouvais m'empêcher d'en cracher le dégoût. Certains jours, j'entrepris de lui démontrer que la femme était un être méritant, sous tous les rapports, d'être considérée comme son égale. Mais je m'aperçus que non seulement mes paroles l'offensaient, mais encore que cela lui semblait une humiliation telle qu'il en était sur le point de se mettre en fureur. Je renonçai donc à faire toute observation, jusqu'au jour où Charcot n'aurait plus faim. Nous nous dirigeâmes sur Kertch, non en suivant la côte, mais à travers la steppe afin d'abréger la route. Nous n'avions dans notre sac qu'une galette d'orge de 3 livres achetée chez un tartare avec nos derniers sous. La triste conclusion de cet état de choses fut qu'à notre arrivée à Kertch, nous étions tout à fait incapables de nous mettre en quête de travail, et même que nous pouvions à peine nous tenir sur nos jambes. Les tentatives de Charcot pour obtenir du pain en mendiant dans les villages ne donnaient aucun résultat. Partout, c'était la même réponse laconique. « Il y en a des tas comme vous !» Et cela était une vérité indiscutable. En effet, cette année-là, il était effrayant de voir le nombre de gens qui sollicitaient du pain. Ils allaient à pied, par bandes de 3 à 20, parfois plus. Ils marchaient, avec des enfants, tantôt les portant, tantôt les traînant par la main. Tous ces enfants étaient blafards. Ce n'était pas du sang qui paraissait circuler sous leur épiderme bleui, mais un liquide immonde, fétide et corrompu. Leurs os pointaient sur leur peau desséchée, avec des arêtes si navrantes à regarder qu'à les voir, on se sentait le cœur étreint d'une tristesse affreuse et qui faisait souffrir intolérablement et lamentablement. Mourant de faim, demi-nus, épuisés par la longueur de la route, ces enfants n'avaient même pas la force de crier. Ils promenaient autour d'eux des regards éteints qui s'allumaient avidement d'un éclair à la vue d'un jardin potager ou d'un champ non moissonné. Et leurs yeux semblaient demander à leurs parents de quel droit ils les avaient mis au monde. Parfois, on voyait passer une télègue que traînait un cheval guidé par une vieille femme amaigrie, semblable à un squelette. Et autour d'elle, il y avait de ces têtes d'enfants aux yeux mélancoliques, regardant la terre des autres. Le cheval, décharné et épuisé, avance à grand-peine en secouant sa tête longue à crinière emmêlée. Il est piteux. Autour de la télègue, ou marchant derrière, viennent les grands. Ils marchent tête basse, les bras pendant comme des cordes. Une expression d'égarement emplit leurs yeux mornes, auxquels la fièvre ne donne même pas d'éclat, mais où l'on peut lire une inexprimable et poignante souffrance. Et tout ce cortège semble ramper lentement et silencieusement sur la terre d'autrui. On eût dit que ces êtres, retranchés de la vie par le malheur, redoutaient de troubler le calme des êtres plus fortunés chez qui ils étaient venus. Nous en rencontrâmes souvent, de ces cortèges funèbres où il n'y avait pas de mort. Lorsqu'ils nous croisaient ou que nous les rejoignions, les malheureux nous demandaient doucement et timidement « Ami, est-ce loin le village ?» Notre réponse leur arrachait un soupir, puis ils se taisaient en nous regardant passer. Mon compagnon exécrait ses concurrents qu'il ne pouvait espérer vaincre dans ses entreprises de mendicité. Les réserves de vitalité de son organisme lui interdisaient, en dépit de la dureté de la marche et de l'insuffisance de nourriture, de présenter un aspect aussi lamentable que celui dont pouvaient, à juste titre, s'enorgueillir les autres, comme d'une perfection en la matière. Sitôt qu'il les voyait paraître à l'horizon, il s'écriait « Encore ? Ah ! Fi ! Fi ! Que viennent-ils faire ici ? Est-ce que la Russie est trop petite pour eux ? Je ne comprends pas. Le peuple est stupide en Russie. » Je lui exposais les raisons qui forçaient le peuple russe à s'exiler. Mais il hochait la tête avec un air de doute et répétait « Je ne comprends pas. Comment cela est-il possible ? Chez moi, en Géorgie, on n'est pas bête à ce point. » Finalement, nous parvînmes à Kertch, harassés et mourant de faim. Il était tard et nous dûmes nous contenter, pour la nuit, de nous installer sous la passerelle qui reliait le bateau à vapeur au quai. La prudence nous faisait un devoir de nous cacher. Nous n'ignorions pas que peu de temps auparavant, tous les vagabonds qui constituaient à Kertch un superflu de population avaient été expulsés de la ville, et nous craignions d'être emmenés au poste. Le passeport dont Charcot était muni, ne lui appartenant pas, cela eût pu compliquer notre aventure de façon grave. Les vagues du bras de mer nous arrosèrent copieusement de leur écume durant la nuit, et à l'aube, nous quittâmes l'abri de la passerelle, trempés et grelottants. Nous passâmes toute la journée à errer sur la plage, et tout notre gain se borna à 10 kopecks que me donna la femme d'un pop pour porter un sac de melons du bazar chez elle. Il s'agissait maintenant de franchir le détroit pour aller à Tamagne. Nous ne trouvâmes pas un batelier qui consentît à nous embaucher comme rameurs. Mes prières restèrent vaines. Les vagabonds s'étaient récemment signalés par des aventures nombreuses et audacieuses, et tout le monde se méfiait de nous, nous classant assez légitimement dans la catégorie des va-nu-pieds. Le soir vint. Furieux contre ma déveine et contre le monde entier, je résolus de tenter une équipée assez téméraire. À la nuit naissante, je la mis à exécution. Chapitre 5. La nuit venue, Charcot et moi nous nous introduisîmes doucement dans le port de la douane, où 3 barques étaient fixées par des chaînes à des anneaux rivés dans le mur de granit du quai. Il faisait nuit noire, le vent soufflait, les canots s'entrechoquaient, les chaînes grinçaient. Il me fut aisé de détacher l'anneau qui retenait une des chaloupes, en secouant la chaîne. À 5 mètres au-dessus de nous, un douanier se promenait, montant la garde tout en sifflotant entre ses dents. Chaque fois qu'il se rapprochait de moi, je cessais mon travail. C'était d'ailleurs là une précaution bien superflue, car personne n'eût supposé qu'un individu osait s'aventurer à cet endroit, dans l'eau jusqu'au cou, courant à chaque minute le risque d'être enlevé par une lame. D'autre part, les chaînes se heurtaient sans discontinuer, et je n'étais pour rien dans ce bruit. Charcot s'était déjà allongé dans le fond de l'embarcation et murmurait quelque chose que le bruit des vagues m'empêchait d'entendre. Enfin, l'anneau céda. Une lame souleva la chaloupe et d'un mouvement de houle la projeta à plusieurs mètres du quai. Je m'accrochai à la chaîne et nageai à côté de la barque, puis je m'y hissai. Nous enlevâmes les 2 planches des mâts et nous les fixâmes au tollé pour nous en servir comme des rames. Nous partîmes. Les nuages couraient dans le ciel, les vagues furieuses bondissaient. Charcot, assis au gouvernail, disparaissait par instants, comme englouti avec l'arrière du canot dans le creux des lames. Puis il montait très haut, et en criant, dégringolait presque sur moi. Je lui donnai le conseil d'abord de s'attacher les jambes à la banquette, ce qu'il dut faire lui-même, et ensuite de retenir ses cris s'il ne tenait pas à être entendu du douanier. Il se tut aussitôt. Sa figure ne m'apparaissait que comme une tache blanche. Il tenait toujours le gouvernail. Le temps nous manquait pour changer de fonction, et d'autre part nous hésitions à quitter l'un et l'autre nos places dans le bateau. Je lui criais les manœuvres à exécuter. Il me comprenait tout de suite et agissait aussi habilement qu'un marin expérimenté. Les planches qui me tenaient lieu de rame ne me servaient pas à grand-chose, sinon à m'arracher les mains. Le vent soufflait de l'arrière, je ne m'inquiétais guère de savoir dans quelle direction nous étions entraînés, et me contentais de me tenir le plus possible par le travers du détroit. Cette besogne m'était facilitée par les feux de Kertch, qui se distinguaient nettement. Les vagues venaient nous rendre visite par-dessus bord et s'entrechoquaient avec des clameurs de colère. Plus nous avancions vers le large, plus les mouvements des flots devenaient formidables et bruyants. Cela semblait un grondement terrible qui obsédait le cerveau et empêchait toute pensée. L'allure de la barque allait sans cesse s'accentuant. Il me devenait très difficile de garder la direction nécessaire. Tour à tour, nous étions engloutis au fond de gouffres ou transportés au sommet de montagnes liquides. L'ombre se faisait plus épaisse encore, et la voûte des nuages semblait s'abaisser. En arrière du bateau, les feux s'évanouissaient dans les ténèbres, et je me sentis pris de peur. J'eus l'impression que cette étendue d'eau en fureur était illimitée. On ne voyait plus rien que les vagues qui surgissaient de l'obscurité pour se ruer sur la chaloupe. Une des planches que je tenais en main fut arrachée avec fracas. De moi-même, j'envoyai l'autre au fond de la barque et je me cramponnais des deux mains au bordage. À chaque bond que nous faisions, Charcot poussait un hurlement sauvage. Je me sentais lamentable et sans force dans ces ténèbres, au milieu de la mer déchaînée qui m'assourdissait de sa clameur. Je promenais autour de moi des regards pleins de tristesse et d'effroi, et le spectacle qui s'offrait à mes yeux était en effet d'une monotonie terrifiante. Ce n'était que vagues couronnées de crêtes blanches qui rejaillissaient en embruns amers, et que nuages lourds, déchiquetés, et qui semblaient aussi des vagues. Une impression me restait, seul. Tout le chaos qui m'environnait aurait pu être encore mille fois plus violent et plus horrible, et j'étais comme vexé du fait que cette force se contenait et se refusait à se donner entièrement libre carrière. La mort me semblait inéluctable, mais il m'apparaissait de toute nécessité de ne point regarder en face cette loi inflexible et qui nivelle tout, sans quoi elle eût été trop cruelle et trop douloureuse. S'il me fallait choisir entre être brûlé vif ou enlisé dans un marécage, j'opterais pour le bûcher, comme étant plus à ma convenance. « Mettons une voile !» me cria Charcot. « Où trouver une voile ? » demandai-je. « Mon paletot ! Jette-le-moi, sans lâcher le gouvernail !» Silencieusement, Charcot s'agita à l'arrière du canot. « Attrape !» Il me lança son vêtement. En rampant au fond de la chaloupe, je parvins encore, non sans peine, à arracher une planche. Je l'enfilai dans la manche solide du paletot et je l'adressai contre la banquette en la fixant entre mes pieds. Mais comme je venais de prendre l'autre manche et un des pans du vêtement, il arriva quelque chose d'imprévu. Nous fîmes un bond formidablement haut, puis nous retombâmes dans un précipice et je me retrouvai à la mer, tenant d'une main le paletot et m'accrochant de l'autre au cordage qui entourait extérieurement la chaloupe. Les vagues passaient avec fracas par-dessus ma tête et j'avais la bouche pleine d'eau salée et amère. J'en avais dans les oreilles, dans le nez, dans la gorge. M'agrippant désespérément à la corde, j'émergeais de l'eau. J'y plongeais à nouveau, donnant de la tête contre les planches. Je jetai le vêtement sur la quille renversée de la barque et je me mis en devoir de grimper dessus. Après bien des efforts, j'y parvins. Je me mis à cheval sur le bateau et j'aperçus Charcot qui faisait des cabrioles dans la mer, tout en s'accrochant aux mêmes cordes que je venais de lâcher. Celles-ci entouraient toute la chaloupe, passant dans des anneaux de fer rivés au bordage. « Tu es vivant !» lui criai-je. Au même instant, il fut lancé au-dessus de l'eau et retomba à son tour sur le bateau. Je le reçus, et nous nous trouvâmes tous deux face à face. J'étais en selle sur la quille, les pieds posés sur la corde comme dans des étriers, mais cette position n'était pas très stable. La première vague pouvait me désarçonner. Charcot se cramponna à mes genoux. Il me cognait de la tête dans la poitrine. Un tremblement l'agitait tout entier, et j'entendais claquer ses dents. Il importait de faire quelque chose. On eût dit que la quille venait d'être graissée, tellement elle était glissante. Je dis à Charcot de se mettre à l'eau et de s'accrocher aux cordes d'un côté, cependant que j'agirais de même de l'autre côté. Pour toute réponse, il m'envoya un coup de tête dans la poitrine. Les vagues, continuant leur danse furieuse, bondissaient par-dessus nous. Nous nous maintenions à grand-peine. La corde me sciait douloureusement un pied. De tous côtés, on voyait se dresser de formidables montagnes d'eau qui s'effondraient aussitôt avec fracas. Je renouvelais, plus énergiquement encore cette fois-ci, mon ordre à Charcot. Il se contenta de me donner dans la poitrine des coups de tête vigoureux. Il n'y avait pas de temps à perdre. L'un après l'autre, je détachai de moi ses deux bras et je le fis glisser dans l'eau, en ayant soin de lui faire accrocher les cordes avec les mains. C'est ici que se passa la scène qui me sembla la plus effroyable dans cette nuit d'horreur. « Tu veux me noyer ?» murmura Charcot, et il me fixa du regard. C'était vraiment effrayant. La question était effrayante, et plus encore son intonation. On y démêlait la résignation timide, une humble prière de grâce, et le suprême espoir d'un être qui abandonne toute espérance d'échapper à une mort horrible. Mais plus terribles étaient ses yeux, dans cette face ruisselante et mortellement livide. Je lui criais « Serre plus fort !» Puis je me laissai aller moi-même à l'eau en me tenant à la corde. Mon pied se heurta violemment à quelque chose. Sur le moment, cela fut si douloureux que je ne compris pas, mais bientôt je me rendis compte. Une sensation violente vibra en moi. J'étais comme ivre, et j'eus l'impression d'être plus fort que je ne l'avais jamais été. « La terre ! » m'écriai-je. Il se peut que les navigateurs illustres, en découvrant des mondes nouveaux, éprouvent à pousser ce cri un enthousiasme plus ardent que le mien. Mais je crois impossible qu'ils le hurlent plus fort. Charcot rugit, et nous nous jetâmes à la mer. Notre joie, toutefois, diminua bientôt. Nous avions encore de l'eau jusqu'à la poitrine, et d'aucun côté rien n'indiquait une plage. Les vagues plus faibles ne bondissaient plus et roulaient indolemment par-dessus nos têtes. Par bonheur, je n'avais pas lâché la barque. Charcot et moi, nous nous plaçâmes chacun d'un côté, et, nous tenant aux cordes tutélaires, nous avançâmes avec précaution. Un peu au hasard, en dirigeant le bateau que nous avions rétabli dans son équilibre normal. Charcot bafouillait quelque chose et riait. J'interrogeai les environs d'un regard un peu inquiet. Il faisait toujours aussi noir. Derrière nous et à notre droite, la clameur de la mer était plus violente. Devant nous et à notre gauche, elle était plus faible. Nous nous orientâmes vers la gauche. Le fond était solide, sablonneux, mais irrégulier. À certains moments, nous perdions pied. Il nous fallait nager des jambes et d'un bras en tenant la chaloupe de l'autre. En d'autres endroits, nous n'avions de l'eau que jusqu'aux genoux. Au passage des parties profondes, Charcot geignait et j'étais tremblant de peur. Mais soudain, devant nous, des lumières brillèrent. C'était le salut. Charcot se mit à hurler à plein poumon. Pour ma part, n'ayant nullement oublié que la chaloupe appartenait à la douane, je le rappelai à mon compagnon. Il se tut. Mais quelques minutes plus tard, je l'entendis qui sanglotait. Je ne pouvais le rassurer, et je n'avais pas le temps de le faire. La profondeur de l'eau continuait à décroître. Nous en eûmes aux genoux, puis à la cheville, puis plus du tout. Nous tirions toujours la barque. Enfin, à bout de force, nous la laissâmes là. Quelque chose qui ressemblait à un tronc noir nous barra la route. Nous l'enjambâmes et nos pieds nus rencontrèrent de l'autre côté des ronces piquantes. La terre nous faisait un accueil inconfortable et inhospitalier. Mais nous ne nous en soucions guère, et nous courûmes vers un foyer qu'on apercevait à une verste de nous et dont le gai flamboiement semblait un sourire accueillant. Autour de lui, la nuit paraissait plus lugubre.